Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, contre-histoire poursuit l'histoire. L'histoire de Tahiti, l'histoire de la façon de vivre à Tahiti que nous a raconté Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville. Alors j'espère que la dernière contre-histoire vous avait un peu amusé, beaucoup surpris. Alors on continue. Je vous rappelle qu'il s'agissait de discussions, de comptes rendus, de lectures de documents entre quatre personnes. Il y avait un touriste, si on peut appeler ça comme ça à cette époque, mais ça existait bien sûr, un touriste, Augustin, qui vient d'arriver à Tahiti et qui est un peu étonné. Il est mis au courant des mœurs et des bonheurs de Tahiti par un résident européen, français, un résident depuis longue date. Et puis entre en scène l'aumônier qui faisait partie de l'expédition française à Tahiti, donc qui représentait, qui était une autorité religieuse à bord des navires français qui se sont arrêtés à Tahiti. Et puis, il fallait bien un interprète, et l'interprète, c'est Oru, qui est un philosophe tout à fait passionnant. Augustin, qui est très surpris des mœurs tahitiennes, trouve opportun de faire appeler une aventure, arriver dans la Nouvelle-Angleterre. Et voici donc Benjamin qui va raconter cette histoire. La voici, une fille, Miss Polly Baker, devenue grosse pour la cinquième fois, fut traduite devant le tribunal de justice de Connecticut, près de Boston. La loi condamne toutes les personnes du sexe qui ne doivent le titre de mère qu'au libertinage. Elle les condamne à une amende ou à une punition corporelle lorsqu'elles ne peuvent pas payer l'amende. Miss Polly, en entrant dans la salle où les juges étaient assemblés, leur tint ce discours. « Permettez-moi, messieurs, de vous adresser quelques mots. Je suis une fille malheureuse et pauvre. Je n'ai pas le moyen de payer des avocats pour prendre ma défense et je ne vous retiendrai pas longtemps. Je ne me flatte pas que dans la sentence que vous allez prononcer, vous vous écartiez de la loi. Ce que j'ose espérer, ce que vous daignerez implorer pour moi, les bontés du gouvernement, et obtenir qu'il me dispense de l'amende. Voici la cinquième fois que je parais devant vous pour le même sujet. Deux fois j'ai payé des amendes onéreuses. Deux fois j'ai subi une punition publique et honteuse parce que je n'ai pas été en état de payer. Cela peut être conforme à la loi, je ne le conteste point. Mais il y a quelquefois des lois injustes et on les abroge. Il y en a aussi de trop sévères et la puissance législatrice peut dispenser de leur exécution. J'ose dire que celle qui me condamne est à la fois injuste en elle-même et trop sévère envers moi. Je n'ai jamais offensé personne dans le lieu où je vis, et je défie mes ennemis, si j'en ai quelques-uns, de pouvoir prouver que j'ai fait le moindre tort à un homme, à une femme ou à un enfant. Permettez-moi d'oublier un moment que la loi existe, alors que je ne conçois pas quel peut être mon crime. J'ai mis 5 beaux enfants au monde, au péril de ma vie. Je les ai nourris de mon lait, je les ai soutenus de mon travail. Et j'aurais fait davantage pour eux si je n'avais pas payé des amendes qui m'en ont ôté les moyens. Est-ce un crime d'augmenter les sujets de Sa Majesté dans une nouvelle contrée qui manque d'habitants? Je n'ai enlevé aucun mari à sa femme, ni débauché aucun jeune homme. Jamais on ne m'a accusé de ces procédés coupables. Et si quelqu'un se plaint de moi, ce ne peut être que le ministre à qui je n'ai point payé les droits de mariage. Mais est-ce ma faute? J'en appelle à vous, messieurs. Vous me supposez sûrement assez de bon sens pour être persuadé que je préférerais l'honorable état de femme à la condition honteuse dans laquelle j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai toujours désiré et je désire encore à me marier, et je ne crains point de dire que j'aurai la bonne conduite, l'industrie et l'économie convenables à une femme, comme j'en ai la fécondité. Je défie qui que ce soit de dire que j'ai refusé de m'engager dans cet état. Je consentis à la première et seule proposition qui m'en a été faite. J'étais vierge encore. J'eus la simplicité de confier mon honneur à un homme qui n'en avait point. Il me fit mon premier enfant et m'abandonna. Cet homme, vous le connaissez tous, il est actuellement magistrat comme vous et s'assied à vos côtés. J'avais espéré qu'il paraîtrait aujourd'hui au tribunal et qu'il aurait intéressé votre pitié en ma faveur, en faveur d'une malheureuse qui ne l'est que par lui. Alors j'aurais été incapable de l'exposer à rougir en rappelant ce qui s'est passé entre nous. Ai-je tort à me plaindre aujourd'hui de l'injustice des lois? La première cause de mes égarements, mon séducteur, est élevé au pouvoir et aux honneurs par ce même gouvernement qui punit mes malheurs, par le fouet et par l'infamie. On me répondra que j'ai transgressé les préceptes de la religion. Si mon offense est contre Dieu, laissez-lui le soin de m'en punir. Vous m'avez déjà exclu de la communion de l'Église. Cela ne suffit-il pas? Pourquoi, au supplice de l'enfer, que vous croyez m'attendre dans l'autre monde, ajoutez-vous dans celui-ci les amendes et le fouet? Pardonnez, messieurs, ces réflexions. Je ne suis point un théologien, mais j'ai peine à croire que ce me soit un grand crime d'avoir donné le jour à de beaux enfants que Dieu a doués d'âmes immortelles et qu'il adore. Si vous faites des lois qui changent la nature des actions et en font des crimes, faites-en contre les célibataires dont le nombre augmente tous les jours, qui portent la séduction et l'opprobre dans les familles, qui trompent les jeunes filles comme je l'ai été et qui les forcent à vivre dans l'état honteux dans lequel je vis, au milieu d'une société qui les repousse et les méprise. Ce sont eux qui troublent la tranquillité publique. Voilà des crimes qui méritent, plus que le mien, l'inadversion des lois. Ce discours singulier produisit l'effet qu'en attendait Miss Baker. Ses juges lui remirent l'amende et la peine qui en tient lieu. Son séducteur, instruit de ce qui s'était passé, sentit le remords de sa première conduite. Il voulut la réparer. Deux jours après, il épousa Miss Baker et fit une honnête femme de celle dont, 5 ans auparavant, il avait fait une fille publique. Et Augustin demande « Et ce n'est pas là un conte de votre invention ?» Et Benjamin répond « Non, assurément, Augustin, j'en suis bien aise. » Après cette note de l'aumônier, Auroux continue. « Auroux, l'heureux moment pour une jeune fille et pour ses parents, que celui où sa grossesse est constatée. Elle se lève, elle accourt, elle jette ses bras autour du cou de sa mère et de son père. C'est avec des transports d'une joie mutuelle qu'elle leur annonce et qu'ils apprennent cet événement. « Maman, mon papa, embrassez-moi, je suis grosse !» Est-il bien vrai? Très vrai? Et de qui l'êtes-vous? Je le suis de un tel. L'aumônier, comment peut-elle nommer le père de son enfant? Auroux, pourquoi veux-tu qu'elle l'ignore? Il en est de la durée de nos amours comme de celle de nos mariages. Elle est au moins d'une lune à la lune suivante. L'aumônier, et cette règle est bien scrupuleusement observée? Auroux, tu vas en juger. D'abord, l'intervalle de deux lunes n'est pas long. Mais lorsque deux pères ont une prétention bien fondée à la formation d'un enfant, il n'appartient plus à sa mère. L'aumônier. À qui appartient-il donc? Auroux. À celui des deux à qui il lui plaît de le donner. Voilà tout son privilège. Et un enfant étant par lui-même un objet d'intérêt et de richesse, tu conçois que parmi nous, les libertines sont rares et que les jeunes garçons s'en éloignent. L'aumônier. Vous avez donc aussi vos libertines? J'en suis bien aise.
Auroux.
Nous en avons même plus d'une sorte. Mais tu m'écartes de mon sujet. Lorsqu'une de nos filles est grosse, si le père de l'enfant est un jeune homme beau, bien fait, brave, intelligent et laborieux, l'espérance que l'enfant héritera des vertus de son père renouvelle l'allégresse. Notre enfant n'a honte que d'un mauvais choix. Tu dois concevoir quel prix nous attachons à la santé, à la beauté, à la force, à l'industrie et au courage. Tu dois concevoir comment, sans que nous en mêlions, les prérogatives du sang doivent s'éterniser parmi nous. Toi qui as parcouru diverses contrées, dis-moi si tu as remarqué dans aucune autant de beaux hommes et autant de belles femmes que dans Tahiti. Regarde-moi. Comment me trouves-tu? Eh bien, il y a 10 000 hommes ici, plus grands, aussi robustes, mais pas un plus brave que moi. Aussi les mères me désignent-elles souvent à leurs filles.
L'aumônier. Mais de tous ces enfants que tu peux avoir faits hors de ta cabane, il t'en revient quoi?
Auroux. Le quatrième, mâle ou femelle. Il s'est établi parmi nous une circulation d'hommes, de femmes et d'enfants, ou de bras de tous âges et de toutes fonctions, qui est bien d'une autre importance que celle de vos denrées qui n'en sont que le produit.
L'aumônier.
Je le conçois. Qu'est-ce que c'est que ces voiles noires que j'ai rencontrées quelquefois?
Auroux.
C'est le signe de la stérilité, vice de naissance ou suite de l'âge avancé. Celle qui quitte ce voile et se mêle avec les hommes est une libertine. Celui qui relève ce voile et s'approche de la femme stérile est un libertin.
L'aumônier.
Et ces voiles gris?
Auroux.
Le signe de la maladie périodique. Celle qui quitte ce voile et se mêle avec des hommes est une libertine. Celui qui le relève et s'approche de la femme malade est un libertin.
L'aumônier.
Avez-vous des châtiments pour ce libertinage?
Auroux.
Point d'autre que le blâme.
L'aumônier.
Imperbe-t-il coucher avec sa fille, une mère avec son fils, un frère avec sa sœur, un mari avec la femme d'un autre?
Auroux.
Pourquoi non?
L'aumônier.
Passe pour la fornication, mais l'inceste, mais l'adultère.
Auroux. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes mots fornication, inceste, adultère?
L'aumônier. Des crimes énormes, pour l'un desquels on brûle dans mon pays.
Auroux.
Qu'on brûle ou qu'on ne brûle pas dans ton pays, peu m'importe. Mais tu n'accuseras pas les mœurs d'Europe par celles de Tahiti, ni par conséquent les mœurs de Tahiti par celles de ton pays. Il nous faut une règle plus sûre. Et quelle sera cette règle? En connais-tu une autre que le bien général et l'utilité particulière? À présent, dis-moi ce que ton crime, inceste, a de contraire à ces deux fins de nos actions.
Tu te trompes, mon ami. Si tu crois qu'une loi, une fois publiée, un mot ignominieux inventé, Un supplice décerné, tout est dit.
Réponds-moi donc, qu'entends-tu par inceste ?
L'aumônier. Mais un inceste.
Roux. Un inceste ? Y a-t-il longtemps que ton grand ouvrier sans tête, sans main et sans outils a fait le monde ?
L'aumônier. Non.
Roux. Fit-il toute l'espèce humaine à la fois ?
L'aumônier.
Non. Il créa seulement une femme et un homme.
Roux.
Eurent-ils des enfants ?
L'aumônier. Assurément.
Roux. Supposons que ces deux premiers parents n'aient eu que des filles et que leur mère soit morte la première, ou qu'il n'ait eu que des garçons et que la femme ait perdu son mari.
L'aumônier. Tu m'embarrasses.
Mais tu as beau dire, l'inceste est un crime abominable. Parlons d'autre chose.
Roux.
Cela te plaît à dire. Je me tais, moi, tant que tu ne m'auras pas dit ce que c'est que le crime abominable inceste.
L'aumônier.
Eh bien, je t'accorde que peut-être l'inceste ne blesse en rien la nature. Mais ne suffit-il pas qu'il menace la constitution politique ? Que deviendrait la sûreté d'un chef et la tranquillité d'un État si toute une nation, composée de plusieurs millions d'hommes, se trouvait rassemblée autour d'une cinquantaine de pères de famille ?
Roux.
Le pis-aller, c'est que là où il n'y a qu'une grande société, il y en aurait 50 petites, plus de bonheur et un crime de moins.
L'aumônier.
Je crois cependant que même ici, un fils couche rarement avec sa mère.
Roux.
À moins qu'il n'ait beaucoup de respect pour elle et une tendresse qui lui fasse oublier la disparité d'âge et préférer une femme de 40 ans à une fille de 19.
L'aumônier.
Et le commerce des pères avec leurs filles ?
Roux.
Guère plus fréquent, à moins que la fille ne soit laide et peu recherchée. Si son père l'aime, il s'occupe à lui préparer sa dot en enfant.
L'aumônier.
Cela me fait imaginer que le sort des femmes que la nature a disgraciées ne doit pas être heureux dans Tahiti.
Roux.
Cela me prouve que tu n'as pas une haute opinion de la générosité de nos jeunes gens.
L'aumônier.
Pour les unions de frères et de sœurs, je ne doute pas qu'elles ne soient très communes.
Roux.
Et très approuvées.
L'aumônier.
À t'entendre, cette passion qui produit tant de crimes et de maux dans nos contrées serait ici tout à fait innocente.
Roux.
Étranger, tu manques de jugement et de mémoire. De jugement, car partout où il y a défense, il faut qu'on soit tenté de faire la chose défendue et qu'on la fasse.
Et de mémoire, puisque tu ne te souviens plus de ce que je t'ai dit.
Nous avons des vieilles dissolues qui sortent la nuit sans leur voile noir et reçoivent des hommes lorsqu'il ne peut rien résulter de leur approche. Si elles sont reconnues ou surprises, l'exil au nord de l'île ou l'esclavage, c'est leur châtiment. Des filles précoces qui relèvent leur voile blanc à l'insu de leurs parents. Et nous avons pour elles un lieu fermé dans la cabane. Des jeunes gens qui déposent leurs chaînes avant le temps prescrit par la nature et par la loi. Et nous en réprimandons leurs parents. Des femmes à qui le temps de la grossesse paraît long. Des femmes et des filles peu scrupuleuses à garder leur voile gris. Mais dans le fait, nous n'attachons pas une grande importance à toutes ces fautes. Et tu ne saurais croire
combien l'idée de richesse particulière au public, unie dans nos têtes à l'idée de population, épure nos mœurs sur ce point. L'aumônier. La passion de deux hommes pour une même femme, ou le goût de deux femmes ou de deux filles pour un même homme, n'occasionne-t-il pas des désordres? Auroux. Je n'en ai pas encore vu quatre exemples. Le choix de la femme ou celui de l'homme finit tout. La violence d'un homme serait une faute grave, mais il faut une plainte publique, et il est presque inouï qu'une fille ou qu'une femme se soit plainte. La seule chose que j'ai remarquée, c'est que nos femmes ont moins de pitié des hommes laids que nos jeunes gens des femmes disgraciées, et nous n'en sommes pas fâchés. L'aumônier. Vous ne connaissez guère la jalousie à ce que je vois, mais la tendresse maritale, l'amour maternel, ces deux sentiments si puissants et si doux, s'ils ne sont pas étrangers ici, doivent y être assez faibles. Auroux. Nous y avons suppléé par un autre, qui est tout autrement général, énergique et durable. L'intérêt. Mets la main sur ta conscience. Laisse là cette fanfaronnade de vertu qui est sans cesse sur les lèvres de tes camarades et qui ne réside pas au fond de leur cœur. Dis-moi si il y a, dans quelque contrée que ce soit, un père qui, sans la honte qui le retient, n'aima mieux perdre son enfant, un mari qui n'aima mieux perdre sa femme que sa fortune et l'aisance de toute sa vie. Sois sûr que partout où l'homme sera attaché à la conservation de son semblable, plus qu'à son lit, à sa santé, à son repos, à sa cabane, à ses fruits et à ses champs, il fera pour lui tout ce qu'il sera possible de faire. C'est ici que les pleurs trempent la couche d'un enfant qui souffre. C'est ici que les mères sont soignées dans la maladie. C'est ici qu'on prise une femme féconde, une fille nubile, un garçon adolescent. C'est ici qu'on s'occupe de leur institution, parce que leur conservation est toujours un accroissement et leur perte toujours une diminution de fortune pour la collectivité. L'aumônier. Je crains bien que ce sauvage n'ait raison. Le paysan misérable de nos contrées excède sa femme pour soulager son cheval, laisse périr son enfant sans secours et appelle le médecin pour son bœuf. Auroux, je n'entends pas trop ce que tu viens de dire, mais à ton retour dans ta patrie si bien polissée, tâche d'y introduire ce ressort. Et c'est alors qu'on y sentira le prix de l'enfant qui naît et l'importance de la population. Veux-tu que je te révèle un secret? Mais prends garde qu'il ne t'échappe. Vous arrivez. Nous vous abandonnons nos femmes et nos filles. Vous vous en étonnez. Vous nous en témoignez une gratitude qui nous fait rire. Vous nous remerciez lorsque nous appliquons sur toi et sur tes compagnons la plus forte de toutes les impositions. Nous ne t'avons point demandé d'argent. Nous ne nous sommes point jetés sur tes marchandises. Nous avons méprisé tes denrées. Mais nos femmes et nos filles sont venues exprimer le sang de tes veines. Quand tu t'éloigneras, tu nous auras laissé des enfants. Ce tribut levé sur ta personne, sur ta propre substance, à ton avis, n'en vaut-il pas bien un autre? Et si tu veux en apprécier sa valeur, imagine que tu aies 200 lieues de côte à courir et qu'à chaque 20 000, on te mette à pareille contribution. Nous avons des terres immenses, en friche, et nous manquons de bras. Et nous t'en avons demandé. Nous avons des calamités épidémiques à réparer, et nous t'avons employé à réparer le vide qu'elles laisseront. Nous avons des ennemis voisins à combattre, un besoin de soldats, et nous t'avons prié de nous en faire. Le nombre de nos femmes et de nos filles est trop grand pour celui des hommes, et nous t'avons associé à notre tâche. Parmi ces femmes et ces filles, il y en a dont nous n'avons pu obtenir d'enfants. Et ce sont celles que nous avons exposées à vos premiers embrassements. Nous avons à payer une redevance en homme à un voisin oppresseur. C'est toi et tes camarades qui nous défraieraient, et dans 5 ou 6 ans, nous lui enverrons vos fils s'ils valent moins que les nôtres. Nous avons tiré de toi et des tiens le seul parti que nous en pouvions tirer. Et crois que, tout sauvages que nous sommes, nous savons aussi calculer. Va où tu voudras, et tu trouveras toujours l'homme aussi fin que toi. Il ne te donnera jamais que ce qui ne lui est bon à rien, et te demandera toujours ce qui lui est utile. S'il te présente un monceau d'or pour un monceau de fer, c'est qu'il ne fait aucun cas de l'or, mais qu'il prise le fer. Mais dis-moi donc pourquoi tu n'es pas vêtu comme les autres. Que signifie cette casaque longue qui t'enveloppe de la tête aux pieds, et ce sac pointu que tu laisses tomber sur tes épaules ou que tu ramènes sur tes oreilles? L'aumônier. C'est que, tel que tu me vois, je me suis engagé dans une société d'hommes qu'on appelle, dans mon pays, des moines. Le plus sacré de leurs vœux est de n'approcher d'aucune femme et de ne point faire d'enfant. Oh. Que faites-vous donc? L'aumônier. Rien. Oro. Et ton magistrat souffre cette espèce de paresse, la pire de tous. L'aumônier. Il fait plus, il la respecte et la fait respecter. Oro. Ma première pensée était que la nature, quel accident ou un art cruel, vous avez privé de la faculté de produire votre semblable, et que, par pitié, on aimait mieux vous laisser vivre que vous tuer. Ma fille m'a dit que tu étais un homme, et un homme aussi robuste qu'un Tahitien, et qu'elle espérait que tes caresses réitérées ne seraient pas infructueuses. À présent que j'ai compris pourquoi tu t'es écrié hier soir « Mais ma religion, mais mon état », pourrais-tu m'apprendre le motif de la faveur et du respect que les magistrats vous accordent? L'aumônier. Je l'ignore. Oroux. Tu sais, au moins, par quelle raison, étant homme, tu t'es librement condamné à ne pas l'être? L'aumônier. Ce serait trop long et trop difficile à expliquer. Oro. Et ce vœu de stérilité, le moine y est-il bien fidèle?
L'aumônier. Non.
Oro. J'en étais sûr. Avez-vous aussi des moines femelles?
L'aumônier. Oui.
Oro. Aussi sages que les moines mâles?
L'aumônier.
Plus refermées, elles sèchent de douleur, périssent d'ennui.
Oro.
Et l'injure faite à la nature est vengée. Oh, le vilain pays! Si tout y est ordonné comme ce que tu m'en dis, vous êtes plus barbares que nous. Le bon aumônier raconte qu'il passa le reste de la journée à parcourir l'île, à visiter les cabanes, et que le soir, après avoir soupé, le père et la mère, l'ayant supplié de coucher avec la seconde de leur fille, Pali, s'était présenté dans le même déshabillé que Tia, et qu'il s'était écrié plusieurs fois pendant la nuit, « Mais ma religion, mais mon état !» Que la troisième nuit, il avait été agité des mêmes remords avec Asto, l'aîné, et que la quatrième nuit, il l'avait accordé, par honnêteté, à la femme de son hôte. Et on revient maintenant au dialogue entre Augustin et Benjamin. Augustin étant le touriste nouvellement arrivé, et Benjamin, je vous rappelle, un résident depuis longtemps à Tahiti. Suite du dialogue entre Augustin et Benjamin, donc. Augustin, j'estime cet aumônier poli.
Benjamin.
Et moi beaucoup davantage les mœurs des Tahitiens et le discours d'Oro.
Augustin.
Quoiqu'un peu modelé à l'européenne.
Benjamin.
Je n'en doute pas. Ici, le bon aumônier se plaint de la brièveté de son séjour dans Tahiti et de la difficulté de mieux connaître les usages d'un peuple assez sage pour s'être arrêté de lui-même à la médiocrité, ou assez heureux pour habiter un climat dont la fertilité lui assurait un long engourdissement, assez actif pour s'être mis à l'abri des besoins absolus de la vie, et assez indolent pour que son innocence, son repos et sa félicité n'eussent rien à redouter d'un progrès trop rapide de ses lumières. Rien n'y était mal par l'opinion et par la loi que ce qui était mal de sa nature. Les travaux et les récoltes s'y faisaient en commun. L'acception du mot « propriété » y était très, très étroite. La passion de l'amour, réduite à un simple appétit physique, n'y produisait aucun de nos désordres. L'île entière offrait l'image d'une seule famille nombreuse, dont chaque cabane représentait les divers appartements d'une de nos grandes maisons. Il finit par protester que ces Tahitiens seront toujours présents à sa mémoire, qu'il avait été tenté de jeter ses vêtements dans le vaisseau et de passer le reste de ses jours parmi eux, et qu'il craint bien de se repentir plus d'une fois de ne l'avoir pas fait.
Augustin.
Malgré cet éloge, quelles conséquences eut-il à tirer des mœurs et des usages bizarres d'un peuple non civilisé?
Benjamin.
Je vois qu'aussitôt que quelque cause physique, telle par exemple que la nécessité de vaincre l'ingratitude du sol, ont mis en jeu la sagacité de l'homme, cet élan le conduit bien au-delà du but, et que le terme du besoin passé, on est porté dans l'océan sans borne des fantaisies, d'où l'on ne se retire plus. Puisse l'heureux Tahitien s'arrêter où il en est. Qu'entendez-vous donc par mœurs?
Demande Augustin.
Benjamin. J'entends une soumission générale et une conduite conséquente à des lois, bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes. Si les lois sont mauvaises, les mœurs sont mauvaises. Si les lois, bonnes ou mauvaises, ne sont point observées, la pire condition d'une société, il n'y a point de mœurs. Or, comment voulez-vous que des lois s'observent quand elles se contredisent ? Parcourez l'histoire des siècles et des nations, tant anciennes que modernes, et vous trouverez les hommes assujettis à trois codes. Le code de la nature, le code civil et le code religieux. Et contraint d'enfreindre alternativement ces trois codes qui n'ont jamais été d'accord. D'où il est arrivé qu'il n'y a eu, dans aucune contrée, comme Auroux l'a deviné, de la nôtre, ni homme, ni citoyen, ni religieux. Augustin. D'où vous conclurez sans doute qu'en fondant la morale sur les rapports éternels qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse devient peut-être superflue, et que la loi civile ne peut être que renonciation à la loi de la nature. Cela sous peine de multiplier les méchants au lieu de faire des bons, dit Benjamin. Augustin. Ou que, si l'on juge nécessaire de les conserver toutes trois, il faut que les deux dernières ne soient que des calques rigoureux de la première, que nous apportons gravées au fond de nos cœurs, et qui sera toujours la plus forte. Benjamin. Cela n'est pas exact. Nous n'apportons en essence qu'une similitude d'organisation avec d'autres êtres, les mêmes besoins, de l'attrait vers les mêmes plaisirs. Une aversion commune pour les mêmes peines, voilà ce qui constitue l'hommage de ce qu'il est et doit fonder la morale qui lui convient. Augustin, cela n'est pas aisé. Benjamin. C'est si difficile que je croirais volontiers le peuple le plus sauvage de la terre, le Tahitien, qui s'en est tenu scrupuleusement à la loi de la nature, plus voisin d'une bonne législation qu'aucun peuple civilisé. Augustin, parce qu'il lui est plus facile de se défaire de son trop de rusticité qu'à nous de revenir sur nos pas et de réformer nos abus. Benjamin, surtout ceux qui tiennent à l'union de l'homme et de la femme. Augustin, cela se peut. Mais commençons par le commencement. Interrogeons bonnement la nature et voyons sans partialité ce qu'elle nous répondra sur ce point. J'y consens. Augustin, le mariage est-il donc dans la nature?
Alors si vous voulez savoir si le mariage est dans la nature, je vous laisse vous pencher vous-même sur le supplément au voyage de Bougainville. Il est dans les collections de petits classiques et dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite.
Madame la République française. française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.